RMC Running, Benoît Boutron.
Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, c'est le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés de la course à pied. Avec Yoann Durand, le maître Yodu, l'athlète membre de l'équipe de France, le docteur Love encore en
Salut
studio,
à tous.
Incroyable.
Toujours en studio, ça y est, je ne te quitte plus. Mais non, mais là, ça y est, je suis parisien, moi. À partir du moment où il fait beau, Paris, c'est beau.
T'as un chocolat, alors?
Non, toujours pas.
Toujours pas.
Mais c'est interdit, ça y est, je reprends mon régime, là. J'arrête les pâtisseries, les cochonneries et tout.
Tu veux pas venir t'installer à Paris, tout simplement?
Ouais, non.
Non. À la grisaille, non. C'est pas ton truc.
Non, mais j'ai l'impression que vous êtes un peu stressé, tu vois. Et du coup, ce matin, je suis énervé.
Ah,
j'ai
oui.
pas réussi à défaire mon Vélib, et rien que ça, ça m'énerve.
Bienvenue à Paris.
Bienvenue à Paris.
C'est ça. Alors, vous nous rejoignez toujours sur Instagram, sur Strava, via le compte RMC Running, le club RMC Running. Vous notez également le podcast, vous laissez des commentaires sur les plateformes de téléchargement. Et le record du monde approche, Yoann. Annonce des sélectionnés le 22 avril prochain.
Ça arrive.
Et n'hésitez pas, continuez à postuler parce que là, ça va être un moment grandiose. On rappelle le week-end du 8-9 juin. Une invitée exceptionnelle cette semaine, une amie d'RMC Running. L'une des meilleures marathoniennes françaises, une histoire singulière et une progression fulgurante. Surtout une force de caractère extraordinaire. On va recevoir Anaïs Kemener, double championne de France de marathon, meilleure française du marathon de Paris en 2023. On va évidemment revenir sur son histoire, sur son parcours. On parlera de son engagement dans la lutte contre le cancer. Et puis on va surtout tenter, Yoann, ça c'est un défi, de décrypter la méthode d'entraînement d'Anaïs, orchestrée par Jean-Yves, son papa, son entraîneur. D'ailleurs, la séance d'entraînement sera liée à son profil, la progression linéaire en course à pied.
C'est
elle
ça.
Va aider
comment,
les gens.
Comment descendre voilà. ton record de
passer
quelques...
de 3h11 à 2h28.
Ok.
Bon, sur le papier, ça se fait, la preuve.
Voilà.
Vous aurez les explications d'Anaïs dans un instant. Et puis le bon plan matos, évidemment. 3 exemplaires du livre d'Anaïs à gagner, le livre qui vient d'être publié. Tout ce que je voulais, c'était courir. On en parlera avec Franck Berthaud, qui est le co-auteur de ce livre et qui viendra vous présenter cet ouvrage. Alors enfilez vos baskets, attachez vos lacets, on file tout de suite courir au parc de la Poudrerie.
Je m'appelle Anaïs Kemener, je suis aide-soignante et à côté de ça, je suis athlète de haut niveau et championne de France en 2022 sur marathon.
C'est l'histoire d'une battante. La nuit, elle est aide-soignante. Le jour, cette fille et petite fille de marathonien court.
On a déjà la première féminine, Anaïs Kemener.
Votre biographie coécrite avec Franck Berthaud. Tout ce que je voulais, c'était courir.
Vous voyez que course après course, je me sentais de mieux en mieux. Les chronos faisaient que descendre.
Plein de force, plein de courage. Prenez du plaisir à 2000% et on se retrouve tous à l'arrivée.
Mesdames, c'est Anaïs Kemener avec un chrono de 58 minutes 57 secondes.
Et elle est première féminine sur le format 30 km.
Récemment, j'ai fait le marathon de Séville où j'ai encore amélioré mon chrono. Ouais. J'ai fait 2h28.43. Bah ça arrive d'être fatigué.
Je peux échanger ?
Non.
À quoi ?
Eh bah tu fais du vélo ?
Oh non. Oh, j'aime pas le vélo.
Je regrette jamais d'avoir fait un entraînement. Par contre, je vais souvent m'en vouloir si je rate un entraînement.
Bah avec le sourire et en continuant à courir.
Mon morceau de boussier, j'avoue que je m'ambiance discrètement en voiture en écoutant Aya Nakamura.
Ah, on aime, eh oui. Voilà. Ça nous plaît. Anaïs Kemener, amie d'RMC Running en studio avec nous. Ça va Anaïs ?
Ça va, merci.
Merci d'être là, merci d'être avec nous. Bon, on se connaît depuis longtemps hein, désormais avec Anaïs, tous les trois. Mais c'est vraiment un plaisir de te recevoir, surtout dans ce cadre-là. Donc la publication de ton livre, encore une étape importante dans ta riche histoire de sportive et de femme. Comment ça va Anaïs ?
Bah, ça va très bien, merci beaucoup pour l'invitation. Bah,
avec plaisir. Tu passes du marathon sur route au marathon médiatique. Quoi.
c'est un peu ça. C'est quoi le plus dur ?
Ah ouais, c'est vrai,
ça, parce que franchement, c'est usant médiatique. Hein.
Ah,
ouais,
c'est dur.
Je pense que c'est encore plus compliqué.
Ouais, d'accord.
Ouais, c'est sûr, c'est dur. Bah, écoute, on est ravis de te recevoir. On va parler d'énormément de sujets avec toi. On l'a dit, on va revenir sur tous les moments forts de ce livre. Mais surtout, on va se concentrer sur ton entraînement, ta façon de progresser, ta passion de la course à pied, parce que c'est ça qui nous anime tous, tous les fans notamment qui nous écoutent dans RMC Running. On démarre toujours notre question par pourquoi tu cours, mais toi j'ai envie de te demander pourquoi tu cours toujours ? Pourquoi tu cours toujours autant finalement Anaïs ?
Ah bah, je pense que j'aime ça vraiment, c'est dans mon sang, c'est en moi et je pense que ouais, les jours où je ne vais pas courir, c'est les jours là où je ne me sens pas bien, où je sais pas, j'ai besoin d'aller courir, je pense que c'est devenu une addiction hein, clairement.
Ben voilà, tout simplement. Yoann, on a déjà une première surprise pour Anaïs, nous on est comme ça.
Que des surprises, enfin, parfois, c'est running.
Parfois on fait venir Jean-Yves le papa, parfois on fait d'autres surprises, mais c'est extrêmement lié à ton histoire. Le docteur Denarnaud est en direct avec nous, tiens.
Oh là là.
Bonjour docteur.
Bonjour.
Parce
bonjour
que
Anaïs.
Bonjour.
C'est l'une des plus belles anecdotes
ah,
de ce
parcours.
Livre. Eh oui, exactement. Merci d'être là, docteur, parce que vous pourrez le découvrir dans le livre d'Anaïs si vous l'achetez. Je vous conseille d'ailleurs de l'acheter. Mais c'est toute cette histoire et ce lien qui te lie désormais avec le docteur Denarnaud, puisque c'est lui qui t'a suivi, c'est lui qui t'a dépisté. C'est à lui que tu as dit, mais comment je vais faire, parce qu'il y a les championnats de France de marathon. Et c'est à lui que tu as apporté la médaille quand tu as remporté ce titre de championne de France. Avant d'en parler avec toi, Anaïs, justement, docteur, est-ce que vous avez déjà eu une autre patiente comme Anaïs, quoi, quelqu'un d'aussi exceptionnel, parce que c'est dingue quand même ce personnage.
Effectivement, le personnage est complètement fou. Et évidemment, je n'ai pas eu d'autres patientes comme Anaïs, c'est clair. Et d'ailleurs, elle a fait ce qu'elle a voulu, même pendant son traitement, dans le sens où je n'étais pas au courant qu'elle courait toujours avec son père. Et j'ai découvert ça tout à fait à la fin, quand elle a osé me le dire. Et voilà, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est un personnage absolument exceptionnel et voilà, qui a une passion absolue, et cette passion lui a permis de vaincre quelque chose qui était bien mal parti. Et voilà, alors je ne sais pas si c'est grâce à ça, grâce à moi, ou grâce à je ne sais pas quelle intervention de l'au-delà, elle a réussi au-delà de toutes les espérances qu'on avait au début de sa maladie. Et je pense qu'effectivement, la course à pied a joué un énorme rôle. Et bon, il y en a un autre, comme elle l'appelle dans le livre, le trio. C'est son père, surtout,
oui.
qui a toujours été présent et qui n'a jamais baissé les bras.
Docteur, c'est un des moments les plus forts, et j'aimerais qu'Anaïs nous le raconte, parce que Anaïs, vous avez vécu cette histoire ensemble. Donc ce trio, il y avait Jean-Yves, ton papa, il y avait toi, et puis il y avait le docteur Denarnaud, donc qui t'a accompagné dans toute cette démarche. Bon, qui a compris qu'on ne pouvait pas te priver de sport, donc qui a fait avec, malheureusement, dans tout le traitement. Raconte-nous ce moment.
Heureusement, plutôt.
Heureusement, bien sûr. Raconte-nous ce moment où tu reviens à la clinique, tu te dis, on va lui faire une surprise, je viens avec ma médaille de championne de France de marathon. Et surtout, après, le docteur pourra nous raconter sa fierté, parce que vous avez fait le tour de tous les services pour montrer la médaille. Donc, raconte-nous ce qui s'est passé à ce moment-là, ouais, Anaïs, s'il te plaît.
C'est ça. Bah, en fait, avec mon père, c'est surtout une idée de mon père, déjà au départ, qui me dit, mais il faut absolument qu'on aille revoir le docteur Denarnaud avec la médaille, parce que bon, bah, il en aura pas, enfin, nous on en aura beaucoup parlé pendant les traitements, mais voilà, le docteur il avait aussi sa place dans l'histoire. Et du coup, c'est vrai qu'on a pris un rendez-vous dans le centre de radiothérapie, et on a pris un rendez-vous comme n'importe quelle autre patiente. On a attendu, et quand c'était notre moment, on est rentré dans son bureau. Et effectivement, comme il le dit dans le docu, bah, il avait un peu peur d'une récidive ou d'un mauvais résultat.
Et ouais.
Et en fait, je me suis déshabillée, je lui ai sorti ma médaille et je lui ai dit, ben voilà, docteur, on a gagné.
Et quand on est docteur, là, ça dépasse le cadre professionnel. Là, il y a une émotion indescriptible, j'imagine, monsieur Denarnaud.
Ah ben, bien sûr. C'est-à-dire, si vous voulez, en plus, ce que ne dit pas Anaïs, c'est qu'elle m'avait demandé le rendez-vous la veille. Donc, moi, j'ai eu toute la nuit à penser qu'effectivement, c'était pas du tout pour cette nouvelle-là qu'elle venait. Et j'avoue que ça a été, oui, une fierté, bien sûr, et puis surtout un bonheur de savoir qu'elle pouvait continuer et qu'elle allait continuer, quoi qu'il arrive. Et non, c'est vrai que c'est un moment exceptionnel, et c'est sans doute le moment d'émotion le plus intense de ma carrière professionnelle.
Ah,
c'est clair.
Ça, c'est beau.
Un, en raison de l'âge. Deux, comme elle le dit dans le livre, que de temps en temps, je la charriais en lui disant qu'elle avait l'âge de ma petite fille, ce qui n'est pas tout à fait vrai, mais qui était quand même pas loin de la vérité. Ma petite fille est un peu plus jeune quand même. Je ne suis pas si vieux. Voilà.
On est content d'avoir réalisé ce moment parce qu'on sent, tu as vu, Johan, l'émotion
encore,
et ce lien
détective
qu'il y a désormais donc, entre le docteur et sa patiente. On te voit, elle est assez émue d'ailleurs, Anaïs, donc je suis touché par ça et j'espère que tu le prends comme une bonne nouvelle, oui, parce que tu as un lien magnifique avec le docteur. Et docteur, c'est aussi un message d'espoir, c'est pour ça qu'on le fait, parce que c'est toute l'histoire d'Anaïs qui passionne au-delà des fans de running et des fans de sport, c'est-à-dire que ce qui compte aussi dans la maladie, c'est la volonté de s'en sortir. Et là, Anaïs, c'est l'exemple parfait pour ça.
C'est l'exemple parfait. Et bon, malheureusement, comme je l'ai peut-être dit un peu abruptement dans le téléfilm qui avait été fait, c'est effectivement il faut se mettre à la place de son patient. Et si on comprend pas le patient, on va lui interdire des choses qui malheureusement peuvent conduire à un suivi beaucoup plus mauvais du programme thérapeutique. Elle l'a suivi parce que elle avait sa course et effectivement j'ai eu la chance de comprendre que c'était extrêmement important pour elle, alors que malheureusement j'aurais dû dans mon rôle de vrai médecin dire non, il faut arrêter complètement les choses. Voilà, voilà, j'ai compris.
Ben voilà, tout simplement.
Et oui. a priori, grâce à ça, elle a suivi tous mes conseils qui n'étaient pas obligatoirement, c'était pas gagné d'avance, voilà, on va dire.
Voilà, et au moins, vous avez trouvé un mode de fonctionnement qui a permis la rémission d'Anaïs, et c'est la beauté de cette histoire. Docteur, quel lien vous conservez aujourd'hui tous les deux? Est-ce que vous vous écrivez de temps en temps? Comment ça fonctionne? Vous parlez occasionnellement?
Alors non, c'est d'ailleurs très très particulier aussi, c'est-à-dire que j'ai compris aussi qu'Anaïs avait besoin de ne plus entendre parler de sa maladie. Donc d'ailleurs dans le livre, je lui dirai ce soir parce que je la verrai.
Parce que ce soir au moment où on enregistre, c'est la rencontre avec le public, c'est ça justement.
Et voilà, c'est ça. Et donc comment expliquer les choses? J'ai compris qu'il fallait prendre son temps avec elle, lui expliquer les choses. Je lui ai donné, ça je m'en rappellerai toujours, et ce que je conseillerais à mes jeunes confrères si un jour ils me le demandaient, c'est effectivement de comprendre pourquoi ce sport était pour elle aussi important, puisqu'à un moment elle voulait même prendre le risque de ne pas se soigner, ou de mal se soigner, disons. Et donc, il est né de là-dessus une confiance absolue entre nous trois, parce qu'il ne faut pas oublier que quand je l'ai vue, bon, elle était plus mineure, mais elle ne s'est pas dépassée de beaucoup l'âge. Et donc son père, voilà, 24 ans, c'est-à-dire que c'est ma plus jeune patiente. Donc c'est quelque chose, oui, il faut se mettre complètement à la place. Et son père a joué ce rôle extraordinaire de continuer à vouloir l'entraîner alors que ses propres entraîneurs ne voulaient plus le faire. C'est génial aussi. Enfin, je veux dire, oui, c'est un trio, elle a raison.
Bon, eh ben merci docteur d'avoir pris quelques minutes pour nous parler. Merci. La surprise est réussie, voilà. Anaïs est...
Ouais, tout à fait. Bon, vous aurez le temps de l'embrasse très très fort.
Moi aussi, voilà. Je vous fais un gros bisou.
Et puis à ce soir.
Au revoir docteur, merci.
Au revoir.
À bientôt en tout cas. Quelle histoire, oui, parce que c'est un des moments forts du livre, forcément, parce qu'il y a toute la maladie qui est racontée, mais il y a la rencontre avec ce docteur, il y a la façon dont vous allez vous apprivoiser, mettre en place un protocole qui comprend la course à pied, cette annonce fameuse, parce que c'est l'anecdote croustillante aussi. C'est un vrai personnage de ta vie désormais, le docteur.
Ouais, complètement, oui. Ben, c'est ce que je dis souvent d'ailleurs, c'est que lui et mon père, ce sont mes deux sauveurs en fait.
Exactement. Ouais. Bah, allons-y justement sur ton rapport avec ton père, parce que ça aussi, on l'avait déjà raconté, mais c'est très important. Un rapport aussi fusionnel avec l'un de ses parents, c'est quand même extrêmement rare. C'est-à-dire que oui, la maladie vous a soudé, mais vous étiez soudé bien avant, en fait. C'est-à-dire que la relation était déjà très forte avant l'annonce de ta maladie. Donc, ça l'a peut-être accentué un peu, mais quoi qu'il arrive, tu étais déjà fusionnel avec ton papa.
Oui, on a toujours été super proches. En fait, mon père, c'est lui qui m'a élevée. Mes parents ont divorcé très tôt. Moi, j'avais 9 ans. Je suis restée avec mon père, du coup, à l'âge de 9 ans, et on est toujours restés ensemble. Et forcément, la course à pied, ça a créé des liens supplémentaires et une complicité encore plus forte, parce que c'est lui qui a commencé à m'entraîner. Et il ne m'a jamais forcé, c'est vrai que ça a toujours été hyper ludique, ça a été toujours un jeu. Enfin, j'ai jamais été poussée à aller à l'entraînement, j'y allais surtout parce que j'avais les copains et les copines. En tout cas, dans mon éducation, ça a toujours créé une force supplémentaire, je pense. Parce que ouais, dans ma vie de jeune femme, dans ma vie d'adulte et même dans la maladie, ça nous a toujours rendu encore plus complices.
Ah, Johan, c'est un rapport fusionnel comme ça, à travers le sport aussi.
Ouais.
Est-ce que tu as déjà connu ça, toi qui connais beaucoup d'athlètes d'ailleurs?
C'est vrai que la relation athlète-entraîné, ce qu'on recherche quand on est entraîneur, c'est créer ce lien de proximité avec son athlète, être capable de le connaître parfaitement, être capable de déceler quand il est en difficulté, quand il n'est pas bien dans sa vie perso, quand il a des problèmes. Tu vois, normalement, enfin, pour moi, un vrai entraîneur, c'est celui qui te connaît, qui ressent les choses, tu vois, qui voit quand t'as besoin de perdre de repos, quand t'as besoin de relâcher la pression un petit peu, qui ressent vraiment, c'est de l'accompagnement. Donc effectivement, je trouve que la relation, là, c'est avec son papa, donc c'est beaucoup plus simple. Mais c'est vrai que c'est pour ça que moi, je crois pas au plan d'entraînement sur Internet, tu vois, où juste t'as un plan d'entraînement écrit, tu vas faire tes 400, mais derrière, ça veut rien dire. L'entraîneur, il doit être là pour regarder l'athlète, il doit être là pour avoir le ressenti de l'athlète. Et après, c'est une relation de confiance qu'il y a entre les deux. Et ça, c'est hyper important.
Mais au-delà de ça, et au-delà du rapport d'amour qu'il y a entre Anaïs et son papa, c'est la compétence pure et dure de Jean-Yves.
Parce que aussi derrière.
La faire passer de 3h11 à 2h28 sur marathon.
Bah oui,
en plus, on a entendu dans la prod, c'est assez marrant quand il essaye de t'imposer comme ça les séances. Parce que ça aussi, tu le racontes, mais c'est un combat permanent comme ça pour essayer de soit te limiter les bornes, soit te faire pratiquer un peu autre chose.
Non, mais forcément compétent.
Tu lui fais une confiance aveugle au niveau de l'entraînement. C'est-à-dire que est-ce que tu prends des initiatives toi, ou est-ce que quoi qu'il arrive, c'est une discussion?
Il la freine
tout le temps. On est toujours en train de discuter, je suis toujours en train de négocier. Ouais. Mais non, je lui fais confiance à 100%, même à 200%. C'est-à-dire que quand il me dit quand il a un objectif pour moi par rapport à un chrono ou une compétition, je sais qu'à vraiment rien, à rien. Il me dit par exemple à Valence ou à Séville, t'es capable de faire moins de 2h29. J'y vais les yeux fermés, même si la prépa elle s'est pas forcément bien passée, je me dis bon, s'il a dit que j'en étais capable,
ouais, c'est ça.
Je vais le faire.
C'est bien, ouais.
Exactement.
Et ben là, l'athlète, parfait, il est dans des conditions où il écoute. Et là, il va pas dire non, je le sens pas, machin truc. Là, il sait que ça va le faire.
Dans un instant, on parle de l'importance de la Meute aussi dans toute ton histoire. La Meute, c'est le club que tu as créé avec ton papa, avec ton ami Mathieu également. Mais moi, je te livre cette anecdote parce qu'on a rencontré avec Geoffrey, notre producteur, quelques athlètes qui font partie justement de votre team de la Meute. Et là aussi, l'histoire est sympa parce que c'est vrai qu'Anaïs, c'est la tête d'affiche du groupe de la Meute. Donc, ça arrive parfois qu'on vienne pour essayer dans le groupe d'Anaïs. Nous, on a eu un témoignage il y a eu quelques semaines. Mais surtout, ce qu'on nous a dit, c'est quand tu rentres dans la Meute, donc tu rentres dans cette famille, donc ce club qui a été fondé par vous. Et surtout, Jean-Yves est l'entraîneur. Et Jean-Yves porte la même attention aux autres athlètes qu'à Anaïs. C'est-à-dire qu'il y a le même investissement pour une athlète de haut niveau à deux doigts justement des minima olympiques que pour quelqu'un qui vise un marathon en 3h ou en 3h15. Et ils se sentent encadrés et vraiment ils font partie de cette meute. Ça porte bien son nom, quoi, du coup.
C'est ça. Ouais. Bah, c'est hyper important pour lui. Hein. D'ailleurs, j'en ai un très bel exemple. Pas plus tard qu'hier, pas plus tard qu'avant-hier, au marathon de Paris, mon père, il était sur le parcours à 6h du matin. Il est rentré chez lui à 16h parce qu'il a attendu les derniers coureurs.
Voilà, c'est ça. Donc tout le monde est accompagné.
C'est ça.
On vous a vu débarquer à Valence aussi. Toi, t'étais pas passé. Mais vous avez débarqué à Valence en Meute avec ses couleurs blanches et violettes. Ouais. Et voilà, la Meute, ça a été important aussi dans ton ton approche sportive, quoi. Il fallait aussi créer ça, un environnement, un contexte, et puis sortir un peu du club où tu étais et faire ça avec des amis et des proches, quoi.
C'est ça. Bah, la Meute, c'est une grande famille, hein, clairement. On a commencé, on était 6, aujourd'hui on est 115. Ouais. C'est juste énorme parce qu'en fait, vraiment, on a réussi à créer quelque chose où mon père, il est quand même au centre parce que c'est lui l'entraîneur, il entraîne tout le monde et il a une attention vraiment particulière envers chaque athlète. Et ça, je trouve que c'est hyper riche, c'est magnifique. Je pense qu'on ne voit pas ça partout.
Ouais.
Et une entente, vraiment, on arrive sur des compétitions, on est 50, on est 60 et on s'attend du début à la fin. Enfin, c'est comme aux entraînements, on est toujours ensemble, on fait des footings ensemble. Quand on fait les séances, on va toujours récupérer les derniers pour que personne reste tout seul. Et la récup, on la fait tous ensemble.
Ouais. Toi aussi, tu nous le dis souvent.
Ouais. Quand moi, dans mon club, c'est pareil.
Tu fais aussi, tu partages.
Je fais l'échauffement avec les gars, je fais la récup avec les gars. Après, ma séance, ça n'arrive pas à suivre. Hein, mais du coup, pareil, on fait demi-tour et on va les chercher. Ouais. Et ça, c'est vrai que on parle souvent de sport individuel, la course à pied, mais malgré tout, c'est cet esprit collectif qu'il y a dans la course, le fait d'être comme ça, cet esprit communautaire. Ouais.
Exactement. Donc, l'importance de la Meute dans ta vie de sportif de haut niveau. Y a plein de passages intéressants. Moi, je le disais, on connaissait l'histoire. On t'a reçu il y a quelques mois déjà et on avait raconté tout ça. On avait eu Jean-Yves d'ailleurs sur quelques audios. Nous, ce qu'on voulait, c'est avoir une approche un peu différente. Il y a juste des moments importants sur lesquels il faut revenir parce qu'on se dit tous, continuer la course à pied lorsqu'on est atteint d'un cancer avec des traitements de chimiothérapie, c'est difficile. Il y a un passage qui est très bien expliqué et dont on parle rarement, c'est tout le côté secondaire, entre guillemets, tout ce que tu as fait au niveau de la chirurgie réparatrice qui t'a beaucoup gêné, beaucoup handicapé pendant des mois, voire des années. Ça, c'est un aspect dont on ne parle pas, parce qu'on se dit quand elle est sortie de la maladie, bah, quelque part, ça y est, c'est tranquille, etc. Mais il y a toute une reconstruction personnelle ensuite. Il y a, donc, tu es passé par cette étape et qui finalement t'a fait aussi du mal et t'a perturbé dans ta vie de sportif, quoi.
Complètement. Et d'ailleurs, je pense que, alors, il y a eu la chimio, il y a eu la radiothérapie, mais je pense que les 4 années que j'ai passées à me faire opérer quasiment tous
les ans,
ça a été encore plus compliqué que la chimiothérapie, parce que la chimiothérapie, c'était un temps qui était quand même assez court, c'était sur 7-8 mois. La radiothérapie, c'était 2 mois. Là, en fait, j'étais jamais bien. J'étais jamais vraiment bien. Je pouvais pas mettre un sous-vêtement comme
toujours
je voulais.
Une gêne, toujours,
toujours une douleur, toujours une gêne, toujours un problème. Je me dis là, j'ai une infection, là, j'ai un problème, là, ça change de couleur. En fait, j'étais tout le temps chez le médecin.
Ouais. Donc, ça aussi, moralement, enfin, c'est sur la longueur comme ça. Après avoir vaincu justement la maladie, c'est enfin, ça construit un mental aussi, parce que c'est un moment difficile à vivre, quoi.
Ouais, mais c'est vrai que c'est usant. On en parlait avec mon père aussi. D'ailleurs, justement, quand on parlait de la progression entre 3h11 et aujourd'hui 2h28,
c'est vrai.
Et il y a quand même eu un temps de quasiment 4 ans où tous les 6 mois je me faisais opérer. Donc finalement, les opérations coupaient les temps d'entraînement. À chaque fois, je devais me remettre de mon opération, repartir à l'entraînement, recommencer à zéro. Enfin, c'était pas vraiment à zéro, mais j'avais toujours un peu cette impression de repartir à zéro. Et on a perdu beaucoup de temps, je pense.
Question simple que je t'ai pas posée encore. Pourquoi ce livre, tout simplement? Parce que le docu était déjà très sympa, le docu que tu as réalisé avec ton partenaire Salomon. Pourquoi cette idée d'en faire un livre, pour témoigner, pour justement donner de la force à celles qui combattent contre ce type de maladie? C'était quoi l'idée?
Alors, je pense que c'était surtout pour partager mon histoire avec beaucoup d'autres hommes et femmes, et beaucoup d'autres personnes, malades ou non d'ailleurs, parce que j'avais eu beaucoup de retours justement sur mes réseaux sociaux quand j'ai partagé mon parcours avec d'autres gens, enfin, quand je mettais des photos de mes chimiothérapies, de mes traitements, de mes opérations. Et je me suis rendu compte que d'en parler...
Tout ça, tu l'as assumé sur les réseaux. Et d'ailleurs, les réseaux t'ont permis aussi de créer du lien avec des personnes qui étaient atteintes de la même maladie que toi.
C'est ça, complètement. En fait, ça a été un peu comme un journal intime. Moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé. Je me dis que j'ai aussi un livre qui m'a permis de m'en sortir quand j'ai découvert que j'étais malade, ou en faisant plein de recherches à la FNAC. Ouais. Et je me dis qu'aujourd'hui, peut-être que ce livre pourrait aider d'autres personnes.
Ouais. C'est beau quand même de partager cette histoire. Là, on dépasse le sport d'ailleurs.
Oui, là on est hors sport. Ouais.
C'est un témoignage qui va toucher toutes les personnes qui sont atteintes comme ça d'une maladie longue comme ça qu'il faut combattre. Il y a plein d'exemples différents. Souviens-toi, on avait reçu Laurie Delostal aussi, qui n'est pas une championne comme Anaïs, mais qui est quand même quelqu'un de battant et qui a un mental d'acier et qui s'en était sorti aussi et qui avait témoigné.
On avait, c'est une revanche.
Voilà, des points communs entre les deux histoires, parce que c'est la même façon aussi de lutter. Le lien à tes tatouages aussi, parce que ça fait partie de ta personnalité, Anaïs, beaucoup de tatouages sur ton corps.
Oui.
Ça, on le connaît quand on te voit sur les réseaux, quand on te voit sur une course ou sur les réseaux. Ce qui est important, c'est qu'ils ont tous une signification.
Pas forcément
tous,
non, pas tous. J'avoue que quelques-uns sont très forts, en tout cas, c'est sûr. Ouais.
Le tatouage, c'est une vraie passion?
Ouais, j'aime bien un peu tout ce qui va être artistique.
Ouais.
J'aime bien, ouais.
Ok. Il y a quand même les points comme ça de cicatrisation que tu as voulu souligner. Il y a une référence à ton grand-père, je crois, aussi.
C'est ça, ouais, sur la cuisse.
Ouais, c'est ça.
Ouais.
Ok, donc il y en a quelques-uns au départ qui avaient une signification particulière.
J'ai vu sur le marathon de Paris pas mal de gens qui s'étaient écrit des choses sur les bras pour se motiver. Et c'est vrai que ça aussi, c'est quand tu arrives au 30-35e que tu cherches des points pour te raccrocher à ton effort. Bah, tu regardais sur ton bras, je voyais les mecs avec écrit des « n'abandonne pas »,« vas-y, crois en toi, truc, t'es un battant, machin ». Et effectivement, tu te raccroches à des... Tout le monde peut le faire. Tu
bon, à l'ancienne, on écrivait les temps de passage voulus.
Oui,
tu te rappelles ou pas ça?
Oui, mais maintenant, il y a des bracelets maintenant.
Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'à un moment, le marathon de Paris fournissait
des bracelets avec les temps de passage.
Tu veux faire 3h15, il faut que tu passes à tel.
Ouais.
C'est vrai, non, mais c'est assez marrant. Pour en revenir à ton histoire, donc beaucoup de records, beaucoup de victoires. Il y a ce titre de championne de France, il y en a eu un deuxième ensuite. Et il y a une année 2023 qui est exceptionnelle, Anaïs, où tu bats tous tes records, où tout se passe bien. Tu vas même à Berlin où tu fais un énorme chrono. Est-ce que c'est à ce moment-là que le rêve olympique commence à naître dans ta tête? Est-ce que tu commences à te dire, là, je bascule quand même d'un côté de marathonienne de haut niveau?
Bah, en fait, non, ce qui est drôle, c'est que moi, le rêve olympique, en tout cas pour 2024, j'ai jamais pensé. J'y
Ouais.
pensais pas vraiment. Je voulais faire les moins de 2,30.
Ouais.
Et c'est vrai qu'à Berlin, quand je fais 2,29, tout le monde me dit, mais attends, t'es à 2 minutes 10 des
Bah oui,
minima,
bien sûr.
t'es à rien, quoi. Alors je leur disais, mais 2 minutes, c'est énorme, je crois que vous vous rendez pas compte. C'est juste énorme. Mais tout le monde me disait, mais il faut essayer, quoi, faut essayer. Qui ne tente rien n'a rien. Et c'est vrai que c'est un peu ma devise aussi. Donc je me suis dit, bon, bah, ok, je vais peut-être essayer d'aller chercher des minima. Ça ne veut pas dire que j'aurai la sélection ou la qualif pour autant, mais en tout cas, effectivement, qui ne tente rien n'a rien.
Ça veut dire que tu t'es jamais mis de pression liée au jeu. T'as toujours pris ça comme un bonus.
J'ai toujours pris ça bah, comme un jeu, en fait.
Ouais, comme un jeu, ouais.
Comme un jeu en me disant, bah, l'objectif, c'est d'aller chercher encore quelques secondes. Et pourquoi pas d'aller atteindre ce niveau olympique?
Ouais. En plus, il y a eu un moment particulier dans ce marathon féminin, c'est que quand tu commences à perfer, etc., il y a des filles qui sont pas encore, entre guillemets, sorties du bois. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de
Ah
gros talents
oui.
sur
Ouais.
marathon qui n'avaient pas fait de chrono référent. Je pense à Méline qui
C'est
détient le
ça.
record de France désormais, et à Manon Trapp qui n'était pas encore comptée
Manon,
sur la distance.
c'est ça.
Donc, tu as vécu aussi l'apogée des autres filles comme ça sur marathon, quoi. C'est
C'est
assez
ça.
marrant, ouais, du
C'est
coup.
ça. Bah oui, en plus, bah, c'est vrai qu'il n'y avait que Megdes qui avait fait
Ouais, voilà.
les minima. Et du coup, quand je fais 2,29, tout le monde me dit, mais attends, t'es vraiment à pas grand-chose. Donc je me disais, bon, bah, sait-on jamais, tu auras malentendu. Ça peut marcher.
Ouais.
Mais c'est vrai que j'étais à Valence aussi parce que j'ai paissé un copain du club ce
Mais on y
jour-là.
était, bien sûr, c'est vrai.
Et
Et oui, tu voulais
c'était
le pacer en
énorme.
3 heures, je me
Ouais,
rappelle.
c'est
Ouais, c'est
ça.
ça.
Et c'était juste énorme. À l'arrivée, c'est la première question que j'ai posée à mon père. Alors, elles ont fait
Ça a
quoi?
donné quoi, ouais.
Ouais. Et du
Mais
coup,
au fond de toi, t'es
c'était.
pas déçu quand t'apprends les résultats? Tu te
Bah
dis,
non.
c'est
Bah non.
stratosphérique?
Bah non, c'est énorme. En plus, moi qui avais un chrono à 2,29, les filles qui font un chrono en 2,25, je peux même pas être déçue, en fait, parce que le niveau, il est complètement différent. C'est un autre monde.
Ouais, c'est sûr. Ouais, avec les
Ouais, quand
chronos.
tu passes proche du truc, tu peux avoir de la déception,
Oui.
mais effectivement, là,
Non,
bah,
non,
moi,
non.
je suis dans, enfin, je ressens ce
Bah oui,
qu'elle
bien
ressent
sûr.
quand je vois les perfs des gars.
Oui, bien
Je me
sûr.
dis, même si j'avais fait 2,8,09, j'étais pas invité, quoi, cette année. C'est monstrueux, ouais.
Mais c'est intéressant d'en parler avec tous les deux, parce que vous étiez à Séville pour Perfait,
Oui.
justement, pour ce rêve olympique. Alors, il était un peu plus présent chez Johan, qui est un athlète de très haut niveau depuis 20 ans, qui est marathonien, qui a des sélections en équipe de France. Avec cette allure imposée, parce que vous saviez ce que vous deviez à peu près réaliser. Donc, Johan, tu savais exactement quelle allure tu
Oui.
devais adopter, au moins pour aller chercher les minima et ne pas avoir de regrets. Ça t'a perturbé, toi, ça, Anaïs, d'avoir une allure imposée d'entraînement? Tu vois, de bosser une allure spécifique qui était très rapide, je crois que c'était quoi, 3,26, 3,27?
3,28.
3,28,
3,28.
voilà. Donc, une allure très, très costaud et très dense, quoi.
Bah, en fait, ce qui m'a perturbé, c'était surtout la prépa. C'est que toute la prépa pour Séville, j'en ai vraiment bavé. Mais
Ouais.
vraiment, 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 avec le froid,
Ouais.
les températures et tout. Enfin, c'est très compliqué de se motiver. Je pense beaucoup plus qu'un marathon de Berlin, par exemple, qu'à la fin de l'été.
Oui.
Et là, c'était compliqué parce que même je faisais des séances avec 5 bornes, 10 bornes. Les 3,28, j'étais en galère. Donc, je me
Ouais,
disais,
c'est
mais
ça.
toute la prépa, j'étais en galère ou sur un fil. Et je me dis, mais le jour J, comment je vais faire pour tenir 42 km à cette allure-là, quoi.
Et ça, on l'avait bien rencontré avec Johan, parce que justement, c'est le sentiment que tu as ressenti après Séville. Tu en
Ouais.
avais marre de t'imposer une allure. C'est-à-dire que
Bah.
tu as envie de recourir à ta sensation, quoi.
Ouais, c'est ça. M'écouter, pas devoir partir sur un chrono imposé,
Ouais,
bah
voilà.
être obligé de faire tel chrono parce que voilà, tu sais que. Et en plus, la vraie difficulté, nous, c'est qu'on savait que bah ça avait couru 2,6 au marathon de Valence. Donc en plus, je savais qu'il fallait pas simplement partir sur les minima, fallait que je parte sur un chrono plutôt à 2,6, 2,7. Et effectivement, ouais, t'es pas dans tes chronos, t'es pas dans tes bases, t'es un peu en sur-régime, t'es jamais vraiment en aisance. Et donc tu te dis, ça va passer, est-ce que ça va passer? T'es un peu en stress. Tu vois, alors que si tu pars sur ton plan, si tu as 12 semaines, tu définis ton plan de bataille, tu sais que tu vaux ça, tu ajustes après dans la préparation en fonction des semis que tu passes ou des séances que tu passes. Mais là, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Donc, effectivement, moi, c'est pour ça qu'il me tarde de refaire un marathon et de ne pas repartir à l'assaut d'un truc qui est peut-être une marche un petit peu trop haute. Ouais.
Ouais, c'est
Parce que le
ça.
marathon, ça s'improvise. Enfin, c'est pas que ça s'improvise pas, mais c'est une épreuve tellement difficile que tu peux pas te permettre de partir, ne serait-ce qu'une seconde plus vite que ce que ton corps peut te le permettre. Une seconde, c'est 42 secondes à l'arrivée,
Oui,
mais
ça paraît
ça
rien.
paraît rien.
Ouais,
Mais
c'est vrai.
franchement, c'est ce qui peut vous faire coincer. Hein.
De toute façon, vous êtes à des niveaux où on le disait, mais
Chaque détail
une
compte.
ou 2 minutes, enfin, il y a un gap entre 1 et 2 minutes à l'arrivée sur un marathon, ouais, c'est
Ah
sûr.
bah complètement, ouais.
Tu te reconnais dans ce qu'il dit, Johan, justement, le fait de ne plus avoir à courir à une allure imposée. En plus, partir vite, c'est un de tes défauts, tu le dis
Ah
dans
bah
le
complètement, justement j'allais y venir. Si t'as des conseils, je suis preneuse, hein, parce que
Exactement.
je fais toujours n'importe quoi au
Ah là,
départ.
il faut des bons pace, c'est tout.
Ouais, c'est
Il
ça, ouais.
faut qu'ils te disent, pousses pas, voilà, tu, c'est restes derrière.
Mais tu sais que j'avais des pacers assez vite et la moitié de la course, j'étais devant eux.
La course enfant, tu sais, les courses enfants où tu mets des barrières.
Parce que t'arrives pas à te canaliser, quoi.
Ouais, je sais pas, j'ai envie de... trop vite, analyse trop vite. Oui. Puis dès que je vois une fille, dès que je vois quelqu'un, je me remets dans ses jambes.
T'as envie de dérouler, quoi.
Ouais,
t'as envie
de... Forcément, on est toujours bien pendant 30 bornes.
Ouais, c'est sûr. Est-ce que t'as progressé d'un point de vue de la nutrition?
Ouais. Je mange un peu plus pendant mes courses.
Enfin, ouais. C'est fini les sticks de miel.
Non, j'en mange toujours, mais un peu plus.
T'es toujours au stick de miel?
Toujours, ouais.
Pas plus?
Non, non.
Ok, d'accord. Bon, et tu penses pas que t'as une marge de progression à aller chercher là-dessus?
Bah, je vais m'entraîner davantage dessus. Je pense que c'est aussi de l'entraînement. Hein.
Ouais, c'est sûr.
Mais les ravitaillements, c'est plus que. Enfin, c'est la stratégie nutritionnelle, elle est presque plus importante que la stratégie. Ouais. Enfin, elle est tout aussi importante que la stratégie d'entraînement. Mmh. Être capable d'absorber ces ravitaux, les encaisser, les assimiler et savoir quoi prendre, à quel moment, la bonne quantité de sucre, la bonne quantité d'eau, c'est hyper important, surtout dans
Ça se travaille.
Et ça se travaille, ouais. Mmh.
Non, mais c'est sûr. Juste avant Séville, il y a un fait marquant qui est raconté dans le livre. Encore un moment difficile à gérer pour toi. Tu apprends l'arrêt cardiaque de ta maman. Donc, tu es vraiment à quelques heures du départ. Tu te poses même la question, est-ce que j'y vais, est-ce que je n'y vais pas? On commence à te rassurer dans ton entourage. On te dit, non, mais c'est bon, il faut que tu y ailles tout de même et tout. Jusqu'à la veille, tu es au téléphone justement pour savoir si ta maman va bien et tout. Ça a perturbé un peu ta grande échéance parce qu'on l'a dit, tu t'étais préparé très dur avec des conditions difficiles. A posteriori, comment tu l'as vécu? Parce que ça aussi, il faut le digérer à un moment pareil, quoi. C'est-à-dire que quand t'es dans le feu de l'action, ok, ça passe, mais il y a un moment ensuite, j'imagine, pour absorber tout ça, quoi.
Bah, déjà, j'ai eu la chance d'être hyper bien entourée, c'est-à-dire que ma famille, mon père et tout, ils étaient très très proches. Mes grands-parents sont rentrés de la Réunion pour rester avec ma mère. Mes oncles, ils étaient à l'hôpital tout le temps aussi pour prendre mon relais quand moi je pouvais pas y être.
Ouais.
Franchement, c'est vrai qu'on n'était plus dans la course. Hein. Avec mon père, on nous appelle le mardi, au moment où on était à Orly, hein, pour partir à Séville.
Vraiment, ouais.
Ouais. En fait, elle m'avait appelé le matin et elle m'avait dit, je vous rappelle en début d'après-midi, dès que j'ai un moment. Donc, je dis OK. En fait, au moment où elle me rappelle, je suis à Orly. Donc, je dis OK, qu'est-ce qui se passe? Et là, elle m'explique. Donc, forcément, je fonds en larmes. Ce qu'on fait, c'est qu'on arrive direct au niveau de l'aéroport. Je dis, je vais modifier mes billets. On reste 2 jours supplémentaires en plus, ou 3 jours, je crois que j'avais pris 3 jours en plus, pour rester auprès de ma mère. Et on avait dit, si on part pas, on part pas, c'est pas grave. Mais j'ai besoin de voir comment ça va se passer et d'être avec elle.
Ouais.
Et arrivé à l'hôpital, c'est vrai que c'était des moments très compliqués, mais je sais pas pourquoi. Enfin, ma mère, elle a quand même eu pas mal de problèmes de santé, elle s'en est toujours sortie, et du coup, dans ma tête, c'était pas possible que ça se passe autrement. Ouais. Dans ma tête, elle allait s'en sortir. Et c'est vrai que mon père, il arrêtait pas de me dire, mais Nana, quand même, genre, garde un peu les pieds sur terre, on sait pas ce qui va se passer. Donc, c'est bien la course, mais ça fait pas tout. Et moi, je pense que j'avais besoin de me raccrocher à quelque chose. Donc en fait, j'étais toujours avec ma mère, mais je pensais qu'à la course. C'est-à-dire que pendant que j'étais à l'hôpital, je continuais à faire le régime dissocié. Je disais à mon père, non, mais on sait jamais, tu vas voir, ça va aller, je veux continuer à manger bien, parce que si jamais je fais le marathon, je veux mettre toutes les chances de mon côté. Et du coup, c'est vrai que c'était un peu compliqué, mais surtout mentalement. Et quand on est parti, en fait, il y avait du mieux. Il y avait un peu de mieux, il commençait à arrêter les sédations, elle commençait à se réveiller tout doucement.
Ouais.
Elle était toujours intubée et tout, elle n'était pas consciente, mais ça allait vers le mieux. Donc c'est vrai que pour le coup, on avait la famille aussi avec elle. On savait qu'elle ne serait pas toute seule. Nous, à notre place, malheureusement, on ne pouvait rien faire de plus, à part juste être à côté d'elle. Donc on s'est dit, allez, ok, on y va. Et j'espère que j'aurai plein de choses à lui raconter à mon retour.
Le rôle de ton père est très dur dans ce moment-là, parce qu'il y a l'entraîneur, il est avec sa fille qui a un grand objectif. Il est également avec son ex-femme qui est dans une situation compliquée. Et là, ouais, tu navigues entre les deux. Et c'est lui qui te ramenait un peu à la raison, quoi.
Mon père, il ne voulait pas partir.
C'est fou.
Ouais. Ah ouais, mon père, il me disait, mais non. Il me dit, la course, c'est bien, mais il faut qu'on soit là, il faut qu'on soit ici. Mm. Et finalement, c'est toute ma famille qui nous a poussés à nous dire, non, mais il faut que tu partes. Nous, on est là, on reste avec elle, toi pars.
Le chrono final est stratosphérique, hein, Yodu. C'est du 2,28,43. Sur l'allure au kilo, on est à combien, Anaïs?
3,29, je crois.
3,29,
ouais.
Donc ça y est, on y est. Là, on est dans
Là, on est dans les minima. On n'est pas loin des minima, ouais.
Ah ouais. Donc, tu l'apprécies, ce chrono, quand même, avec le recul. Quand tu rentres de Séville, tu te dis... Même dès la ligne, tu te dis... C'est quand même quelque chose d'exceptionnel.
Je partais sur les minima, quand même. Ouais. Je partais sur 2,26,50, même un peu plus rapide, parce que je passe une 13 au SMI, donc...
Je me suis emballée. 2,26,0.
Voilà, même une 12,56 exactement. Donc forcément, mais j'avais plusieurs étapes. Je me disais, si je bats mon record, c'est déjà une première victoire. Si je réalise les minima, c'est encore mieux. Et si en plus de ça, j'ai une sélection, c'est jackpot.
Ah oui.
Donc j'avais au moins ce premier step qui était validé. Donc je me dis, j'ai pas tout perdu. J'y suis pas allée pour rien, entre guillemets. Et j'aurais plein de trucs à raconter à tout le monde et à ma maman à son réveil. Donc c'était très cool.
On va en parler dans la séance parce qu'on parlera de cette progression linéaire. Mmh. Mais
c'est vrai que C'est une minute fou, chaque fois.
Ah, c'est incroyable.
Une à deux minutes.
C'est un exemple vraiment pour tous les coureurs, Johan. Passer comme ça, à s'améliorer d'année en année comme ça, c'est extraordinaire.
Ah bah, complètement, c'est ce qu'on recherche tous, la progressivité dans la performance. Après, quand tu regardes sa fiche, c'est vrai que tu vois 2,32 à Paris avec le parcours en 2023, la météo et tout. Tu te dis que déjà, à ce moment-là, potentiellement, c'était 3 minutes, 2-3 minutes, 2-3 minutes de moins sur un parcours roulant comme Séville. Donc, elle concrétise ce qu'elle vaut déjà depuis quelques années. Ouais. Mais effectivement, et puis, il y a le côté excitant quand tu es comme ça sur un challenge, tout le temps en train de descendre de 2-3 minutes tes RP. Bah, à chaque fois, t'en rajoutes. Enfin, à chaque fois, t'as envie de continuer. C'est l'effet boule de neige un peu.
Non, mais moi, ce que j'adore, c'est que tu casses l'idée reçue du fameux plafond de verre. On se dit tous, bah non, mais moi je pourrais jamais dans ma vie courir à 4 minutes au kilomètre.
Puis après,
courir à 3,30 au kilomètre. Quoi.
Enfin, la discussion qu'on aura, je pense, c'est sur les compétitions qu'elle fait. Elle est elle aussi un peu hors cadre, tu vois. Sur marathon, on dit, faut pas courir, faut pas faire de compétition, faut pas faire de long. Quand tu regardes la fiche de Anaïs, déjà, il faut la souris pour descendre au nombre de courses.
Moi aussi, je suis allé sur le pistard.
Il y a 30 courses par an. Ouais. Donc, tu vois, c'est un peu, bah, il y a des filles comme ça. Il y a Mélodie Julien qui court beaucoup et ils sont pas à l'opposé, mais enfin, chacun a sa façon de progresser, sa façon de prendre du plaisir dans la pratique. Elle le prend plus dans la compétition que dans l'entraînement. Il y en a, ils aiment s'entraîner pour être performants le jour J. Donc ça, c'est propre à chacun. Mais effectivement, ça sera intéressant d'avoir son avis et si c'est sa demande personnelle de courir autant ou si c'est le coach qui lui dit, tu vois.
Eh ben, tu sais quoi, on passe à la séance tout de suite.
Allez.
RMC. La séance.
Donc c'est le rêve de tous les coureurs, progresser de façon linéaire, année après année, faire baisser les chronos. Avant d'entrer dans le détail, est-ce que quand tu démarres le marathon, tu te dis un jour je pourrais viser ne serait-ce que 2,45, 2,40
Jamais de la vie.
T'avais jamais les pronoms en tête quoi.
Déjà, je crois que 2,45 c'était les minima aux France des garçons il y a quelques années.
Ouais.
C'est 2,48 maintenant même.
Ah ouais. Bah,
2,48
Ouais. Je me disais si un jour dans ma vie j'arrive à faire ça, ce serait mais incroyable. Je les voyais comme des extraterrestres déjà, les gars qui couraient en 2,40.
Voilà. Donc ça veut dire que les allures que tu adoptes aujourd'hui, elles te paraissaient inatteignable il y a quelques années, quoi.
Même encore aujourd'hui, je crois que j'ai du mal à m'en rendre compte. Hein.
Ouais, c'est ça. Bah, allons-y, rentrons dans le vif du sujet. Du coup, la méthode d'entraînement d'Anaïs Kemener, parce que c'est ce qui nous passionne. Comment, justement, tu expliques, toi, cette progression d'année en année ? Est-ce que c'est avant tout lié, par exemple, au volume d'entraînement, au volume kilométrique par semaine ou pas forcément ?
Je pense quand même, parce qu'il y a le côté physique et il y a le côté mental qui est quand même extrêmement lié. Et moi, je sais que plus je fais des kilomètres, plus ça me rassure en fait.
Ouais.
Plus je suis rassurée et je me dis, ok, là j'ai fait 150 km semaine, c'est bon. Ça, c'est une bonne semaine, c'est validé. Par contre, si je fais des semaines un peu comme en ce moment, un peu moins de 100 km, je me dis, oh là là, je manque énormément de foncier, je vais pas y arriver quoi.
Ouais.
C'est psychologique un peu.
Ouais, ouais. Ouais. Parce que 150 km, c'est un gros volume, mais aujourd'hui, sur les marathoniennes de très haut niveau, c'est pas non plus. Énorme comme volume
non,
par rapport au chrono qu'elle attend.
Oui, elles sont sur ces volumes-là, les filles. Ouais. Ça, c'est une certitude. Aujourd'hui, les filles courent un peu moins que les hommes, mais malgré tout, sur des volumes très importants. Ouais. C'est des volumes classiques. Ouais.
Parce que ton père a un grand rôle, évidemment, dans cette progression. Bah, la réponse, déjà, à la question que se posait Yodu, c'est vrai que c'est ta particularité. Toi, tu prends beaucoup de dossards, tu fais beaucoup de compétitions.
Ouais.
Moi, je l'ai croisée dimanche.
Ouais.
Elle était sur. Elle a couru dimanche.
Eh oui, bah, t'as payé.
J'ai payé 30 km.
Quand
30
km. À une bonne allure. À quelle allure ?
3,55.
Ah. Au kilomètre.
Au kilo, ouais.
Voilà, donc
il a fait son record en 2,45.
Et bravo,
ouais,
voilà,
et
objectif
bravo,
atteint. Voilà, félicitations à Maxime. Bon, après, pour toi, c'est une allure qui est devenue une allure pas trop difficile, du coup, 3,55 au kilomètre.
Bah, ça fait une sortie au train quand même, donc je me dis au moins ça me sert d'entraînement et ça fait un peu de volume aussi sur la journée du 30, enfin du dimanche, c'est cool.
Le fait de mettre beaucoup de dossards, ça veut dire que ton père adapte l'intensité ?
Pas vraiment. Alors, je me fais un peu engueuler souvent là-dessus. C'est-à-dire qu'il trouve aussi que je prends trop de dossards. Mais après, il me dit, bon, t'as mal nulle part, non ? Bon, bah, écoute, ok, fais-toi plaisir. Il y a aussi le côté compétition. Donc, quand il y a des performances, où, par exemple, comme là, je vais faire les championnats de France de 10 000, au mois d'avril, je prends aucun dossard parce que c'était important de choisir sa course.
Ok.
Je peux pas faire plein de
donc
courses.
Donc là, t'es vraiment dans une démarche de perf pour le 10 000 au mois de mai, quoi.
C'est ça. Mais par contre, quand il n'y a pas d'objectif précis, avec la meute, j'avoue qu'on s'ambiance un petit peu tous ensemble. S'il y en a un qui dit, je me suis inscrit à une course, on est 35 à suivre.
Puis à Paris, il y a des courses tous les week-ends.
Ah oui, c'est ça. Non, mais t'en as besoin comme d'un levier de motivation ?
Bah, j'aime bien, ouais. Et puis après, je ne suis pas sur un focus objectif à chaque compétition. Je mets plein de dossards, mais il y en a, c'est pour le plaisir. Il y en a, c'est un peu, ça me sert d'entraînement aussi.
Quand tu cours seul, tu cours systématiquement à fond ?
Seul, c'est-à-dire ?
Bah, c'est-à-dire quand tu n'emmènes pas quelqu'un, quand ce n'est pas une démarche collective. C'est-à-dire que quand tu prends le dossard pour toi.
Non, ça dépend.
Ah, ça dépend.
Si c'est mon objectif, ouais, je vais le faire à fond, mais si ce n'est pas un objectif, forcément.
Okay.
Par exemple, l'éco-trail de Paris.
Bah, là, j'avoue que c'était un peu différent parce que l'année d'avant, j'avais gagné. Je me disais, j'aimerais bien quand même faire un podium.
Tu gagnes le 30 km et tu l'as gagné
trois semaines après le marathon.
Ouais, trois semaines après le marathon. Il y a une autre perf qui était énorme, elle est racontée dans le livre et nous on y était, donc on était. Ça m'a rappelé de bons souvenirs. C'était le 20 km de Paris.
Ouais.
Parce que là aussi, tu hallucines dans ta tête parce que tu te retrouves à côté de Megdes.
Ouais,
Megdes qui est recordman de France du semi-marathon. Megdes qui a une foulée magnifique. Ouais. Hein. Megdes c'est quand même une immense championne. Et tu te retrouves avec Megdes et elle adore ton profil. Elle te connaît via les réseaux. Elle te dit allez viens on y va. On met un coup de kick justement pour faire sauter la Kenyan et tout. Et c'est un moment génial que tu vis avec elle quoi ce jour-là.
Ah mais c'était énorme. Je pense que ce jour-là j'étais comme dans un rêve. Mais je me dis c'est pas possible. Il y a quelqu'un qui va me pincer. Je vais me réveiller.
Ouais, c'est ça.
Ah c'était énorme vraiment. Ouais. Déjà de courir avec elle, je me disais mais je crois que pendant 10 km je me suis dit. Qu'est-ce que tu fous là ? Mais à quel moment ça va péter ? Oui, c'est ça.
Ah, c'est ça. Après un parcours hyper roulant et tout, bah, on y était d'ailleurs, Johan, tu te rappelles. Mais et nous, on a reçu Megdes après.
Okay.
Elle nous raconte l'anecdote qu'elle pensait gagner et finalement, elle ne gagne pas parce qu'il y a une fille qui était partie bien avant.
Elle n'avait pas vu. Ouais.
Et en revanche, elle nous a dit, elle nous a confié qu'elle était ravie d'avoir couru avec toi, que tu étais un personnage inspirant et tout. Mais là aussi, encore une fois, ça te rapproche, ça te fait toucher du doigt le très haut niveau quand même.
C'est sûr, je suis entourée de filles que je regardais sur les réseaux avec des yeux en cœur en me disant « mais waouh, maintenant je suis avec elle ».
Mais là, sa capacité, c'est une capacité de récupération qui est quand même assez hors norme. Parce que tu vois, là, on parle des 20 kilos de Paris, mais c'était 15 jours après le marathon de Berlin.
Ouais.
Donc moi, 15 jours après un marathon, je peux te dire, tu ne m'appelles pas
moi non plus.
Tu es au fond du Lille dimanche matin.
Exactement.
Donc c'est cette capacité de récupération qui est quand même relativement impressionnante.
Et puis tu l'as dit, marathon de Berlin couru à fond.
Et oui, mais couru à fond.
Pas d'été, couru à fond et la capacité de récupérer. Jamais touché par les blessures ? Rarement.
Il n'y a pas de bois autour de moi là, mais non, je suis quand même rarement blessée, c'est sûr que.
Rien de.
Bah, c'est très rare. Je suis très à l'écoute de mon corps aussi. Je pense que peut-être la maladie, mais surtout le sport depuis des années, fait que je me connais très très bien.
Ouais.
Et du coup, si j'ai la moindre gêne, je le dis tout de suite à mon père. Et là, par exemple, pendant la prépa de Séville, j'ai eu. Petit début de douleur au niveau du périoste, il m'a dit bon, on surveille. Ça s'est jamais intensifié, donc pour le coup, j'ai quand même pu continuer à courir tout le temps.
Ouais.
Mais si j'avais eu mal davantage, il m'aurait dit bah là, on coupe 2-3 jours si besoin, tu vas voir un médecin et on avise en fonction. Mais pour l'instant, en tout cas, blessure.
Parce qu'il y a un facteur génétique, il y a un facteur chance aussi de passer à côté des blessures en augmentant le volume et les intensités. Et puis tu l'as dit, c'est l'hygiène de vie aussi. Imagine que tu prends soin de tout ça, même si tu gardes ton travail d'aide-soignante la nuit en plus, donc t'as un rythme particulier. Tu as une attention particulière à l'alimentation par exemple ?
Mieux maintenant.
Ouais,
mieux maintenant, mais c'est vrai que je vois une nutritionniste depuis un an à peu près, mais avant ça se faisait pas du tout, et même avec le travail c'était compliqué, parce que quand on bosse de nuit, en plus aux urgences, on peut pas manger quand on veut, donc c'était plutôt un morceau de pain à la volée entre deux patients, enfin c'était vraiment pas hyper quali, et aujourd'hui c'est un peu mieux, maintenant je suis passée à mi-temps depuis le 1er janvier, et c'est vrai que j'essaie de faire un petit peu plus attention à ça, donc mieux dormir, mieux récupérer, mieux manger, et je pense qu'il n'y a pas de secret, ça va forcément
aller
dans le
sens. C'est le plus important. Ouais.
C'est quoi une semaine type d'entraînement d'Anaïs Kemener alors ?
Semaine type ?
Ouais, en termes de séance, je sais pas, une semaine en prépa marathon, admettons.
Prépa marathon, en fait je pense que c'est un peu comme, c'est classique, c'est assez classique. Hein.
Ouais.
C'est, en général c'est le lundi footing, ça peut être deux footings par exemple, en prépa marathon.
T'es en bi-quotidien combien de jours par semaine ?
Deux-trois. Deux, trois jours de bi-quotidien, mais moi j'aime bien en général.
Pas plus, donc ça veut dire que pour atteindre les volumes qu'elle atteint, Yodu, chaque sortie est chargée.
Une sortie de 35 bornes. Hein.
Ouais, voilà. Non, je veux dire, même un footing peut être un footing de 15 ou 20 bornes. Quoi.
Ah ouais, c'est 20 bornes en général.
Ah, d'accord. Ça va, on comprend qu'il n'y ait pas de bi-quotidien.
C'est ça, si je fais du bi-quotidien, ça peut être 20 le matin, 10 le soir par exemple.
Ouais, donc ça fait une grosse journée.
Des gros volumes.
Ouais, ouais.
Et jour de repos par contre, moi c'est ma question. Jamais.
Bah si, il y en a, mais mon père me tire. C'est compliqué quand même. Hein. Jour de repos, j'en prends un par semaine. J'essaie d'en prendre un par semaine. Mais sinon, j'avoue que je mens un peu parce que des fois, il me dit 45 minutes EF et du coup, je le compte comme un repos.
Ah oui, d'accord, on n'a pas le même sens du repos.
Ah non, pas vraiment.
Je me dis, non, mais j'ai fait 10 bornes, c'est bon, c'est un repos aujourd'hui, quoi.
Donc, t'as pas de jour fixe, t'as pas un jour fixe où tu te dis, je me repose, ou je sais pas, une demi-journée fixe, comme ça, où tu te dis.
Non, il n'y a pas de jour particulier. C'est peut-être plutôt avant les courses en général, mais sinon, il nous met plutôt le lundi, parce que du coup, c'est le lendemain de compétition.
Ouais.
Donc, ouais, ça dépend.
T'as détestation de l'affûtage hein, aussi. Ça, on pourra en parler, mais baisser l'intensité. Et Geoffrey me signale d'ailleurs, notre producteur, que t'as fait une semaine à 219 km.
Ouais, même 223,
223 km.
Là pour Séville ?
Ouais.
Impressionnant.
Et qu'est-ce que tu as fait dans cette semaine ?
Bah, je fais que courir.
Ouais, c'est ça. Non, mais ça veut dire que l'intensité était modérée, il y avait beaucoup de footing en aisance.
Oui, il y a beaucoup de footing. Ouais. Je faisais pas mal de bi quotidien justement cette semaine-là. Et en fait, j'ai beaucoup. Je crois que c'est une semaine où je bossais beaucoup en plus. J'ai dû bosser 40 heures la semaine et en fait, je faisais mes allers-retours au travail en courant. Du coup, je fais 10 km aller, 10 km retour. En fait, ça fait pas mal de volume comme ça.
Ok. Et donc, la clé de progression linéaire, comme ça, pour ceux qui nous écoutent et qui sont inspirés par tout ça, qu'est-ce que tu dirais ? C'est le fruit d'un travail long et de longue haleine comme ça, et c'est le travail de toutes ces années qui porte ses fruits ? Ou il y a quand même quelques spécificités, quelques clés qui t'ont aidé à passer des caps, je ne sais pas, sur 10 km, sur semi, sur marathon ? Est-ce qu'il y a eu des moments importants quand même, des changements dans l'entraînement qui t'ont fait passer un cap comme ça rapidement ?
Bah déjà, c'est la discipline. C'est sûr que voilà, il faut y aller quoi qu'il arrive. Je pense que bon, sauf si on est blessé, sauf si on est vraiment trop fatigué parce que ce n'est pas bénéfique. Mais c'est vrai que c'est un truc où je me suis toujours dit, bah, il n'y a pas de raison. Par exemple, il y a quelques jours, j'étais encore un peu fatiguée. Je me suis dit, bon, ok, je suis fatiguée, mais il fait beau, il pleut pas, je suis en forme, je suis pas blessée.
Tu t'es reboostée,
T'as jamais de jour où t'as pas envie d'y aller ?
Ah, si, il y a des jours où j'ai pas envie, mais j'y vais quand même.
Ah, tu vas quand même ?
Ouais, j'y vais quand même, parce que je me dis, bah, au final, c'est toujours pareil. Quand j'y vais, par exemple, je suis chez moi, j'ai pas spécialement envie d'y aller, c'est ok. Mais quand j'y vais quand même, quand je rentre, je suis hyper content.
Ouais. Bon, on a tous ce sentiment-là. Ouais.
Ah, tu te reconnais un peu.
Ah ouais, là, quand tu te mets un petit coup de pied au cul, que tu y vas et après, putain, t'es bien. Tu te dis, quel con, j'aurais été de rester dans mon canapé.
Ouais.
C'est clair.
Ouais.
Quand on parle avec ton père, il y a encore des axes de progression, des secteurs que tu veux améliorer ? Aller chercher de la vitesse, par exemple ?
Ouais, c'est ça, parce que déjà, j'aime pas la vitesse.
Ouais.
J'aime pas faire des séances de piste dès que c'est des 200, 300, 400. Je suis toujours en train de râler.
C'est la VMA courte qui te pose problème.
Ouais, vraiment. Ouais. Par contre, quand c'est des séances longues, il n'y a aucun problème. J'adore ça. Mais alors, c'est vrai que les séances courtes, il me dit des 250 mètres, 10 fois 200. Oh, quelle horreur. Quelle horreur.
Ouais. Alors que dès que tu es sur du 1000, 2000, 3000, là, tu prends du plaisir.
C'est ça.
Okay.
Et puis, je suis contente parce que j'arrive à courir avec les garçons quand je fais des 1000, 2000, 3000.
Ouais,
alors que les 200 mètres, ils sont 10 secondes devant. Ouais. Je suis en galère. Mais c'est bien aussi parce que du coup, ils me permettent de progresser. Ça met un petit coup de pied aux fesses aussi. Quoi.
Ouais. La grande spécialité d'Anaïs, c'est les 30-30 aussi. Ça t'en mange dans l'année,
t'en
les 30-30. Hein.
15-15, 30-30.
Ah ouais,
régulier.
Ça, Jean-Yves, il aime ça, les 30-30.
Ah, il adore.
30-30, hein.
Bah ouais. Ah, en plus, il nous met toujours. Hein. Deux fois 10 minutes de 15-15, une fois 10 minutes de 30-30. Oh, ouais. Alors, je vois le plan, je suis en l'horreur.
Comment tu fonctionnes d'un point de vue du renforcement musculaire ? Est-ce que tu fais des séances de muscu à côté ? Est-ce que c'est un aspect que tu négliges pour le moment ?
Je néglige totalement le renfo. Et d'ailleurs, je le dis souvent à mon père, le pauvre en plus, parce que je suis toujours en train de lui dire « il faut que je fasse plus de renfo ». Il me dit « bah vas-y, bah oui, moi j'ai besoin de toi ».
C'est pas interdit de le faire.
C'est clair.
Ouais, un plan de renforcement, c'est délicat à mettre en place aussi.
Ouais, mais je l'ai, là par exemple, je l'ai saoulé pour avoir un peu une fiche avec des choses à faire à la maison, parce que je vais pas en salle.
T'as le courage ?
Et ben non, j'ai rien fait depuis 6 mois, quoi. J'ai toujours la fiche, mais je fais rien.
Mais c'est une chance de pas se blesser quand
c'est
on fait peu
dire.
De renfo.
Mais c'est une chance. Et toi, qui es aussi athlète de haut niveau, est-ce que tu vois dans tout ce qu'on dit des gains marginaux à aller chercher ? La nutrition, on l'a dit.
La nutrition, c'était déjà une première
la
étape.
La gestion de course.
Je pense que le vrai gain, ça peut être là-dedans. Ouais. Ça peut être dans la gestion de course, à savoir partir peut-être un petit peu en retrait pour essayer de finir fort, essayer de pourquoi pas faire un négatif split sur des gros marathons. On le voit aujourd'hui chez les filles, ça, il y en a beaucoup qui fonctionnent comme ça. Et après, c'est peut-être plus écouter son papa, peut-être faire moins de courses. Mais si elle fait moins de courses, elle le dit. Si elle est en confiance, c'est parce qu'elle fait du volume. Et il n'y a rien de mieux que la confiance chez un athlète, tu vois. Une des clés de la performance, c'est vraiment le jour J, tu arrives sur la ligne de départ, tu as confiance en toi, bah, tu as déjà fait une grosse partie du chemin. Donc si tu lui enlèves ça, tu la dénatures peut-être et peut-être qu'elle va se dire « Ah non, mais j'en ai pas assez fait, moi, avec mes 130 km semaine. » Et elle sera dans le doute.
Merci Yodu, parce que c'est un point très important que j'ai oublié, c'est l'approche des compétitions. Et c'est ça qui peut-être me fascine le plus avec toi Anaïs, cette façon d'aborder les grands marathons, les grandes échéances d'ailleurs. Là on parle même plus de stress, de tension, etc. Toi c'est juste de l'excitation et du plaisir. Et c'est peut-être là aussi que tu vas chercher le meilleur de toi-même, parce que quand tu te présentes sur une ligne de départ, c'est un peu différent pour du cross ou pour du semi ou pour d'autres disciplines. Mais comme ta catégorie reine à toi, c'est le marathon, quand tu te présentes sur une ligne, tu arrives complètement libérée et prête à aller parfait, quoi.
Ouais, bah en vrai, même sur du 10 et du semi aussi, hein, dès que c'est de la course sur route, en règle générale, je suis pas trop stressée parce que bah, peut-être aussi, justement, c'est lié au fait que je prenne pas mal de dossards.
Ouais.
Mais justement, je me dis, bah, en fait, c'est qu'une course.
Oui, c'est une course grave, comme les autres. T'en fais tellement, mais c'est vrai, hein.
Ça veut dire pas de mauvais sommeil la veille, pas de...
J'ai un mauvais sommeil toute l'année.
Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, mais pas d'angoisse, pas de... Je sais pas, la semaine de course, t'es pas tendu, non, il n'y a plus de tout ça.
Non, j'ai hâte en général, puis les entraînements vont avec, donc c'est aussi rassurant. Je me dis, bon, de toute façon, voilà, même si aujourd'hui ça marche pas, dans deux semaines, ça marchera peut-être.
Ouais.
L'approche de la compétition, c'est un élément clé.
Ouais, ah non, mais ouais, c'est un élément clé. Après, en plus, la force d'Anaïs, et elle surfe bien là-dessus, c'est qu'elle le dit. Enfin, elle n'était pas programmée pour être championne, elle n'était pas programmée pour faire des chronos pareils. Donc, effectivement, moi, je prends dans mon cas, j'ai une certaine pression parce que c'est quelque chose que je connais depuis 15 ans et que c'est mon quotidien de devoir être performant. Tu vois, je sais que j'ai des attentes depuis 15 ans. On me demande, mes sponsors, mes ci, mes là, d'être performant et de devoir faire des chronos, tu vois. Et dans le cas d'Anaïs, c'est pas du tout le cas. Elle est là parce qu'elle kiffe, elle a progressé de ouf et ça l'amène à avoir des résultats qui, pour le coup, sont intéressants pour participer à des grands championnats et tout ça. Mais voilà, elle a pas à avoir de pression. Elle kiffe. Elle était pas programmée pour être une championne. Et voilà, c'est son histoire et ça l'a amené là. Maintenant, il faut juste kiffer, quoi.
Exactement. Et en tout cas, c'est ce que tu appliques à merveille. Donc, merci pour tous ces conseils, Anaïs. Bravo. On passe tout de suite au bon plan matos.
RMC. Le bon plan matos.
Il est évident, ce bon plan matos. C'est le livre d'Anaïs. Tout ce que je voulais, c'était courir. On est avec Franck Berthaud, le co-auteur du livre. Salut, Franck.
Salut.
Donc, c'est toi qui as monté toute cette histoire. Alors, parce que je voyais, quand je posais la question à Anaïs, la genèse du livre et tout, hop, t'as regardé directement. Est-ce que tu peux nous raconter les coulisses avant qu'on entre dans le vif du sujet, Franck? Peut-être votre rencontre à tous les deux et comment l'idée a germé dans vos esprits alors?
Ouais, bien sûr. Avec Anaïs, on s'est rencontrés avant l'été dernier, donc en juillet 2023.
Ouais.
Donc c'était, comme tu l'as dit, un peu l'année de tous ses records où elle venait de courir le marathon de Paris. Il y avait déjà le docu en préparation qui était en tournage et puis elle se tournait tout doucement vers le marathon de Berlin. Et c'est vrai que quand on s'est rencontrés, moi je la connaissais via les réseaux sociaux. Et donc je suivais déjà toute cette volonté qu'elle avait de partager son histoire, que ce soit sa maladie ou sa vie d'athlète. Et la discussion est après venue assez naturellement. Moi je lui ai parlé de ma manière de travailler. Je venais d'écrire aussi avec Mathieu Blanchard son livre, toujours aux éditions Flammarion, et assez naturellement je lui ai demandé si ça pouvait l'intéresser, et je crois que Anaïs y avait déjà réfléchi, avait déjà eu cette volonté d'écrire, mais elle pourrait en parler mieux que moi, et du coup ça s'est fait après, par la suite, assez naturellement, quoi.
Parce qu'on peut avoir l'envie de transmettre et d'écrire un livre, il faut trouver le bon co-auteur, parce que c'est un métier d'écrire un livre.
Ah bah complètement.
Donc il faut que le feeling passe tout de suite entre vous, quoi.
C'est ça.
Qu'est-ce qui t'a fait justement choisir Franck et te dire, allez, on y va, on se lance dans l'aventure?
Déjà, quand on s'est rencontrés, ça a tout de suite bien matché, quoi. Il y avait eu des bons retours avec le Team Try Paris. Et moi, j'avais bien kiffé. On avait pas mal échangé justement là-dessus. Il m'avait dit, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser? Est-ce que c'est un projet qui te parle? Et moi, je lui ai dit, oui, c'est vrai que j'y avais déjà pensé, mais c'était pas le bon moment, je pensais pas avoir suffisamment de choses à raconter ou je me sentais pas légitime de le faire.
Ouais.
Et puis c'est vrai qu'en fait, en en parlant un peu autour de moi, je me suis rendu compte que en fait, peut-être que si, ça pourrait aider d'autres personnes. Et ensuite, on a passé beaucoup de temps ensemble.
Oui, c'est ça. Comment on fonctionne ensuite? Comment ce duo fonctionne? Comment on structure un livre comme celui-là? Parce qu'il y a beaucoup de faits marquants dans la vie d'Anaïs. Comment on les choisit? Comment on met celui-là en avant plutôt que celui-ci, tu vois?
C'est beaucoup de discussions et de temps passé ensemble. C'est vrai qu'on a passé de longs moments. Déjà, ça a commencé juste après l'été par un stage, en tout cas un séjour à Font-Romeu, où Anaïs était avec d'autres personnes de la meute et où moi j'étais aussi, à discuter d'abord de la structure, c'est-à-dire, comme tu dis, comment on va faire en sorte que tout ce qui a marqué son parcours puisse être rendu intelligible dans une narration, quoi. Mmh. Donc c'est beaucoup de discussions, une co-construction d'un plan et d'une envie de raconter les choses à la manière dont Anaïs avait envie de le faire. Et puis ensuite, une fois que cette structure-là, ce squelette-là est trouvé et que Anaïs sent qu'elle va pouvoir, avec cette structure, raconter tout ce qu'elle a envie de raconter, c'est beaucoup de discussions, chapitre par chapitre, rentrer dans les détails. C'est aussi l'avantage d'un livre par rapport aux réseaux sociaux et par rapport au film, c'est que de manière émotionnelle, dans le détail, on peut rentrer vraiment, vraiment justement dans le détail et raconter plus de choses et peut-être encore plus ressentir tous les stades par lesquels Anaïs est passée.
Exactement, c'est le temps long de l'écriture. Et je te le dis, bah nous, on est un bon exemple parce que nous, on t'a reçu, on a raconté cette histoire. Et je te l'ai dit quand tu es arrivé tout à l'heure, c'est que même moi, j'ai appris des choses. Tu vois, donc en relisant le livre d'Anaïs, comme ça, il y a des moments marquants que je connaissais. L'anecdote avec le docteur qu'on a reçu, tout ça, je connaissais. Mais il y a des moments qu'on apprend. C'est l'avantage du livre aussi, c'est qu'on va un peu plus loin, mais il faut que tu fasses une confiance totale à Franck pour lui confier tout ça aussi, parce que c'est particulier pour toi.
Ah bah oui, bah ça a mis du temps, puis c'est sûr que après pour les côtés détails, c'est vrai que c'est pas quelque chose de gênant, parce qu'avec la maladie, moi j'ai beaucoup partagé aussi, donc c'était pas du tout un problème d'en parler et de revenir dessus. Mais c'est vrai que ouais, c'était cool, en tout cas pour tout ce qui était écriture, on a passé beaucoup de temps ensemble, il m'a suivi à Berlin, il y a eu le stage justement à Font-Romeu. Enfin, non, c'était vraiment bien.
On met combien de temps à écrire un livre pareil ?
Et bah là, on a mis environ 6-7 mois à écrire.
Et
donc, c'est assez rapide. Et là, en l'occurrence, ce qui était potentiellement un peu délicat, même si effectivement Anaïs en parle très très bien, c'était de faire en sorte que ce soit malgré tout un livre positif. On allait rentrer dans les détails d'une maladie, parce qu'il y avait la volonté d'Anaïs de raconter. D'effets secondaires de chimiothérapie, enfin de choses
des qui sont produits de toutes les couleurs.
Voilà, des choses qui sur le papier peuvent être. Fallait pas tomber dans le pathos, mais au contraire, fallait montrer que il y avait toujours entre elle et son père justement, et aussi avec le docteur de Narnos, cette autodérision, cet humour qui leur a permis de vivre les choses un peu à leur manière, et que au final, c'est une histoire positive via le sport qui a permis à Anaïs de surmonter tout ça, quoi.
Toi, tu t'es entretenu avec les personnages principaux au-delà d'Anaïs, avec le papa, avec le docteur, ou non, est-ce que tu t'es contenté du discours d'Anaïs?
Non, bien sûr. Ouais, bien sûr, t'as raison, j'ai vu le docteur de Narnos, j'ai passé beaucoup de temps avec son père, j'ai passé beaucoup de temps aussi avec son entourage de la meute, je suis allé m'entraîner avec eux. Mmh. Enfin, donc c'est beaucoup de partage.
T'as pris 2-3 tartes sur les séances.
Ouais, ça c'est sûr.
Les 30-30. Voilà,
mais c'est important, il faut avoir ce point de vue externe aussi, parce que même si Anaïs écrit à la première personne, raconte son histoire, c'est toujours intéressant d'aller voir comment quelqu'un d'autre a aperçu telle anecdote, tel moment, et tout son entourage, de la même manière que pour sa carrière d'athlète et pour sa maladie. Tout son entourage aussi a apporté énormément de choses à ce récit.
Mais tu vois, quand on avait terminé nous l'enregistrement du podcast avec Anaïs, je m'étais fait une réflexion en sortant en me disant mais c'est vrai qu'on parle jamais de sa maman. Et là, ta maman, c'est un thème que tu abordes donc dans ce livre, parce que c'est une relation particulière avant même ce qui s'est passé et ce qu'elle a vécu malheureusement avant que tu fasses le marathon de Séville.
Ouais,
et pour le livre dont tu te confies. Donc là aussi, toi, Franck, tu dois aller chercher une relation particulière, quoi, une relation très intime pour Anaïs, quoi, dont elle parle rarement finalement, parce que là, on sort du cadre de la maladie, de l'exemple, etc., quoi.
Bien sûr, c'est fait partie de l'histoire d'Anaïs. Il y avait cette volonté, effectivement, d'en parler, parce que beaucoup de gens qui connaissent Anaïs et beaucoup de gens d'ailleurs qui avaient vu le film et qui ont vu le film se sont interrogés sur le fait qu'on parlait beaucoup de son papa, rarement de sa maman. Ça, c'est des choses qui regardent Anaïs, mais elle avait quand même envie d'en parler. Il fallait trouver le ton juste pour en parler comme elle le souhaitait et quand même faire en sorte que sa maman ait une présence dans le livre comme elle a une présence dans son histoire. Fallait juste bien le doser. Ça aussi, c'était important pour Anaïs.
C'est un des moments les plus compliqués d'aborder cette relation avec ta maman ?
Ouais, c'était un peu compliqué au départ. C'est vrai que c'était une des premières questions que tu m'as posées en me disant il va falloir qu'on en parle un petit peu, que les gens comprennent. En fait, il y a besoin d'un contexte et les gens ont besoin de se situer aussi par rapport à comment tu es, comment tu vis et comment tu es devenu aujourd'hui. Et c'est vrai qu'au début, c'était un peu compliqué. Je voulais pas trop en parler. Je disais non, mais enfin, j'ai pas spécialement envie d'en parler parce que ça regarde pas les gens. Et puis, c'est vrai qu'avec le temps, j'ai compris que effectivement, il fallait juste que ce soit bien dosé, quoi. J'avais pas besoin de faire un chapitre entier, mais c'était important d'en parler.
Et c'est magnifiquement raconté, donc félicitations à toi, Franck. Bravo à Anaïs. Et on vous remercie en tout cas d'être passé par ici pour raconter tout ça. Tout ce que je voulais, c'était courir. Magnifique ouvrage, je vous le conseille. Hein. Ça se lit en 2 jours. C'est fait. Voilà, ça se lit très vite. Et puis, je précise qu'on a 3 exemplaires à faire gagner, dédicacés par Anaïs Kemener. Donc, magnifique pour la communauté RMC Running.
Ah ouais.
Juste, on le retrouve où le livre? On le retrouve un peu partout?
Absolument partout, dans toutes les librairies. Il est dispo depuis le 3 avril et librairie Fnac, où
voilà.
Vous voulez.
Magnifique. On a des objectifs de vente ou pas?
Non, on avait l'objectif qu'Anaïs soit contente de raconter son histoire et c'est le cas, donc c'est le principal. Après, le livre vivra sa vie, mais j'espère qu'il aura une super vie aussi.
Magnifique, et on espère qu'Anaïs continuera de progresser et de nous régaler en tout cas sur les différentes courses. Donc 3 exemplaires à faire gagner, vous postulez sur Instagram, sur notre club RMC Running via Strava.
Et le test d'écoute.
Avec le test d'écoute. Voilà, j'ai envie de rendre hommage au docteur quand même. Donc vous m'écrivez le nom du docteur, voilà, tout simplement. Le nom du docteur qui a formé ce trio avec Jean-Yves et Anaïs Kemener pour lutter contre cette maladie. Allez-y, n'hésitez pas, comme ça il y a 3 exemplaires à gagner. Merci beaucoup Anaïs, juste dernière question que j'avais pour toi. C'est particulier, donc tu étais très connu dans le monde du running, tu commences à être connu dans le monde, dans le grand public, tu vois, tu as fait des grandes émissions comme C'est à vous par exemple, là on est devant plus d'un million de téléspectateurs. Comment tu vis justement cette notoriété grandissante encore une fois?
Je le prends un peu comme un marathon médiatique, justement pour la promo du docu et du livre surtout. Mais c'est vrai que j'ai pas envie de changer quoi que ce soit. Donc je me dis, j'ai toujours mon travail, j'ai toujours mes entraînements, j'ai toujours mon petit cocon familial avec ma meute, mon club et ma vie perso. Donc je me dis, après le reste.
Ouais, puis quand t'es passé à RMC Running, t'as fait le top du top. Après, c'est qu'en dessous.
Alors ça, c'est vrai. J'aurais préféré qu'elle le dise elle, mais c'est vrai. Mais que tu le dises toi déjà, Yodu, c'est un honneur. Donc non, mais en tout cas, on a été ravis de t'accueillir, Anaïs. Tu es la bienvenue quand tu veux. Merci à Franck Berthaud d'avoir été là aussi. Et on te rend hommage en musique pour terminer. On t'a pas demandé la musique que tu écoutes quand
non.
tu cours. On a choisi pour toi, mais ça va te plaire.
C'est encore Geoffrey qui a choisi.
Ah non, mais là, pour le coup, c'est très bien choisi.
Allez.
Parce que c'est Aya Nakamura, oui, mais c'est Jolie Nana.
Ojaja.
Ouais. Le surnom d'Anaïs, c'est Nana, donc c'est Jolie Nana.
C'est vrai.
Ça colle.
Voilà. Merci Anaïs d'avoir été avec nous. Merci à toi, Maître Yodu. Docteur Love, s'il vous plaît.
Ah oui.
C'est le surnom donné par Margot Sirac.
J'ai eu quelques Docteur Love lors du marathon de Paris.
Ça va te coller à la peau, mon vieux, maintenant. Bon, merci à tous. Et toujours ce conseil pour terminer. Quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut à tous. Tu penses assurer, c'est bon. Tu peux déposer ton CV par mail. Mais qui va se négliger? Je vais pas me négliger. Si c'est fini, c'est la vie, c'est la vie. Vive, vive. Bientôt j'aurai tout à pêcher. Oui, oui. Jolie nana, recherche jolie Joe. Comment on fait? Je suis pas